Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Au fil des bobines, l'émission de cinéphile sur Sous-OZEF 91.1 FM. On va parler essentiellement d'un documentaire, Leni Riefenstahl, La lumière et les ombres. Pour en parler avec moi, j'ai Jean-Marie. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour.
Et Hervé. Bonjour Hervé.
Bonjour Colin.
Un documentaire donc réalisé par Andrés Veiol et produit par une productrice assez célèbre en Allemagne qui s'appelle Sandra Meischberger, qui en fait c'est une équivalent un peu de Oprah Winfrey mais en Allemagne, c'est-à-dire qu'une animatrice de télévision, de talk show, journaliste. Donc le film a eu une assez belle couverture en Allemagne et il a été également projeté lors du festival de Venise aussi. Et donc c'est un documentaire assez attendu dans son pays et il arrive donc chez nous en France. Mais bon, qui est Leni Riefenstahl, qui est donc le sujet de ce documentaire? Alors, c'est une réalisatrice qui a marqué en fait à la fois l'histoire et à la fois également le cinéma. Mais ce qui est assez compliqué, c'est que c'est une réalisatrice qui en fait a œuvré pour le cinéma de propagande nazi. Donc c'est un documentaire qui revient un peu sur sa carrière, sur une personnalité extrêmement compliquée, parce que c'était une artiste qui a amené beaucoup de choses cinématographiquement parlant, qui a donné des œuvres qui sont encore analysées aujourd'hui dans leur forme, beaucoup, mais voilà, qui a complètement œuvré pour le cinéma propagande et donc très lié en fait à Hitler et à l'entourage en fait du Troisième Reich. Voilà. Je ne sais pas si chacun, vous pouvez un peu me dire ce que vous avez un peu pensé de ce documentaire. Voilà. Est-ce que vous connaissiez avant un peu le parcours aussi de Leni Riefenstahl?
Oui, alors moi je peux parler de ce que j'ai ressenti à la vue de ce film. Leni Riefenstahl, évidemment, je connaissais. Je pense qu'il est difficile de passer à côté quand on s'intéresse à l'histoire.
Die Politik ist das Gegenteil von dem, was mich mein ganzes Leben lang erfüllt hat. Das ist Kunst für mich.
Also, dass Kunst und Politik eine Wechselwirkung eingehen können, das glauben Sie nicht. Bis heute nicht.
Wenn Sie gesessen sind in Ihrer Arbeit, dann geht auch eine gewisse Ausstrahlung und Kraft von Ihnen aus, die die Leute überzeugt.
Hat so ein Künstler dann nicht auch eine ganz besondere Verantwortung?
Also eine Widerstandskämpferin, meinen Sie, hätte ich sein sollen, aber das waren nur sehr wenige.
Es ist ja viel schwerer zu sagen, wenn Sie es nicht gewusst haben, ich habe es nicht gewusst, weil man Ihnen nicht glaubt.
Wir haben doch gewusst, was wir machen.
Sie hatte 22 Juden erschossen gesehen.
Nein, ist alles nicht wahr. Ich habe keine Scheußlichkeiten überhaupt gesehen.
Also ich kann diesen Schwein nicht unterkriegen. Am Schluss wird die Gerechtigkeit siegen.
Ihre ganze Haltung hat uns sehr, sehr imponiert.
Wenn man Goebbels Tagebücher liest, hat man den Eindruck, dass sie bei Hitler und bei ihm zu Hause ein- und ausgingen wie gute Bekannte.
Das stimmt nicht. Das wollen wir abbrechen, denn das stimmt nicht.
Das war aber nicht
Glauben Sie, vor der Kamera werde ich Ihnen das sagen? Da mache ich überhaupt nicht mehr mit.
Moi, ce qui m'a fasciné dans ce film, c'est effectivement, et je pense que ne serait-ce que pour ça, il faut venir voir ce film, parce que j'avais vu beaucoup de ces images tournées sur les parades de ce régime nazi, sur les Jeux Olympiques de Munich, etc.
De 1936 à
de
Berlin.
De Berlin. Et par contre, c'est des images qu'on a vues en télévisuel, à la télé. Et là, je pense que sur grand écran, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Il y a vraiment une qualité de réalisation pour l'époque, mais même pas que pour l'époque. Je pense que ça reste des films très très forts et ça risque d'être un... Voilà. Et après, ben évidemment, ce qui est passionnant, c'est toutes les questions que pose le travail que fait le réalisateur à partir des archives personnelles de Leni Riefenstahl. Des confrontations avec Leni, de ses enregistrements, de ses images, pendant le Troisième Reich, après, de ses coups de téléphone avec Albert Speer, l'architecte du Reich. Enfin voilà, tout ça est assez passionnant.
Il faut dire que c'est une personnalité qui effectivement a eu son heure de gloire pendant les périodes la période nazie. Elle a fait partie du cercle assez étroit qui fréquentait Hitler. Elle était très amie avec Goebbels, qui lui portait une attention toute particulière au cinéma comme outil justement de mobilisation des masses. D'ailleurs, il y a un film qui va sortir aussi sur Goebbels, dans l'esprit de Goebbels, là, très prochainement. Il y a tout un thème aujourd'hui autour de Goebbels. C'est vrai qu'on voit remonter aussi les fantômes du Troisième Reich aujourd'hui en Allemagne avec l'AFD. Donc, ce film est très intéressant aussi parce que voilà, il nous rappelle ce qu'a été aussi cette idéologie raciale et raciste qui mettait en avant la beauté idéale d'un corps blanc, d'un corps fort, d'un corps qui masculin, on va dire, ce qu'elle a elle-même justement cherché à valoriser, alors à travers évidemment comment elle a filmé les Jeux Olympiques, Olympia, les dieux du stade, qu'elle a valorisé aussi dans la manière dont elle célébrait les grandes messes comme le congrès de Nuremberg. Hein. Ça s'appelle... j'ai oublié le titre.
Le triomphe de la volonté.
Voilà, le triomphe de la volonté. Voilà, et donc ça, c'est... on a toute cette œuvre pour laquelle, comme tu dis, Hervé, elle avait inventé des techniques particulières de prise de vue avec des cadrages en contre-plongée, enfin des lumières pour mettre en valeur cette beauté masculine, cette beauté de l'homme aryen.
Et ça fonctionne.
Alors... Après-guerre, elle a quand même été inquiétée parce qu'elle était quand même complice du régime nazi, mais elle s'est toujours échinée à dénier cette proximité avec le nazisme. Elle s'est défendue comme quoi, non, c'est pas vrai. Elle n'était pas au courant de tout ce qui se passait. Et il y a un certain nombre d'épisodes sur lesquels le film revient à travers des archives où on l'entend à la fois dans ses dénégations et où le réalisateur la met quelque part... En tout cas, nous fait constater que les archives, elles, parlent complètement à l'envers de ce qu'elle nous dit et qu'elle est dans les mensonges, dans les ambiguïtés, y compris qu'on le retrouve quand elle va, dans les années 70, filmer les Éthiopiens, les corps éthiopiens, où là, elle a un discours aussi tout aussi raciste sans même s'en rendre compte.
Oui. C'est vrai que le réalisateur la met vraiment en face de ses contradictions plusieurs fois. Et c'est assez passionnant. D'ailleurs, elle perd un peu ses nerfs par moments. Oui. On voit que jusqu'au bout, elle a un sens de l'image, puisque tout est travaillé sur ce qu'elle exige de la prise de vue, etc. Mais c'est un personnage, enfin, je pense que c'est une personnalité très impressionnante, malgré tout.
Tout à fait,
ouais. Elle a essayé de tenir cette image, mais le film est subtil. Très, très bien. On sent qu'il y a eu un travail quand même très, très approfondi de toutes ces archives.
Il n'y a quasiment aucune voix off.
Non.
En fait, c'est les matériaux nous sont livrés.
Il fait parler les matériaux.
Les matériaux. Ouais. Alors, on voit apparaître effectivement la lumière et les ombres qui sont très, très obscures.
et effectivement, moi, je connaissais aussi Leni Riefenstahl puisque j'ai à la maison aussi son livre sur les Nouba de Co, dont tu parlais, des Soudanais. Mais enfin,
je me suis trompé.
Et là, effectivement, ce que tu disais sur les corps blancs, musclés, etc., elle a continué ce travail-là sur des corps noirs dans les années 70. C'est assez fascinant. Et c'est vrai que ces images aussi sont quand même magnifiques, les photographies des Nouba. Voilà, non, c'est un personnage quand même...
Alors, il utilise beaucoup d'images de la télévision, notamment télévision suisse en particulier, je crois, où justement, on essaye de la coincer, où elle est dans... Il y a vraiment des joutes oratoires avec les présentateurs, et puis à un moment donné, elle dit « j'en ai marre, je m'en vais
!» Où elle est confrontée à une Allemande de sa génération.
Sur un plateau de télévision, il y a plusieurs extraits de cette émission-là, où on essaye de lui demander si elle savait pas. Il y a une Allemande à côté d'elle qui a du mal à croire qu'elle n'était au courant de rien. Et donc il y a une espèce de confrontation entre les deux qui est vraiment assez intéressant. Comme vous dites, c'était une personnalité qui était aussi, je pense, très égocentrique. Il y avait quelque chose de très... Elle s'aimait beaucoup, je pense. Et je pense que c'était difficile de lui faire Je ne sais pas quel est le vrai du faux, mais à mon avis, elle en savait beaucoup plus de ce qu'elle prétend, et je pense que le film le sous-entend à plusieurs moments, et je pense que par sa personnalité, c'était impossible pour elle de pouvoir reconnaître ça, peut-être elle savait certaines choses, et je pense qu'elle pouvait, sa personnalité fait qu'elle ne pouvait jamais, à mon sens, le reconnaître, je pense.
Mais... Ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'est imposée dans un monde d'hommes en même temps.
Oui,
elle incarnait quelque part une forme d'émancipation de la femme. Elle s'était révélée d'abord comme actrice dans des films de montagne, où justement c'était aussi très prisé par les nazis, hein, les films de montagne, il y avait des équipes d'alpinistes qui allaient conquérir des sommets pour Hitler, hein, y compris dans le Tibet, hein. Et donc c'est comme ça qu'elle a été repérée par Goebbels, et puis il lui a mis à ce moment-là, il lui a offert vraiment tout ce qu'il fallait au terme d'argent, en termes de possibilités de tournage, pour qu'elle mette en œuvre toutes ces techniques nouvelles de la monstration, de la force.
Oui.
T'as dit l'essentiel.
Non, mais je suis. Puis pour revenir un peu sur son esthétique aussi, au-delà aussi de comment elle filme les corps, comme vous l'avez dit, il y a quelque chose d'extrêmement fascinant, et je pense des choses qui sont restées, à mon avis aussi, quand on parle d'un travail, je pense qu'il y a une influence sur le cinéma et sur le cinéaste, mais aussi des techniques, dont notamment le fait que c'est une des premières à avoir fait des plans aériens, par exemple. C'est quelque chose qui ne se faisait pas, et c'est une des premières qui a vraiment innové ça.
Et elle avait pas de drone.
Non. Bah non, c'était par hélicoptère. C'était les plans se faisaient par hélicoptère. Ouais. Et donc ouais, c'était un tour de force technique, voilà, pour l'époque. Et beaucoup de gens analysent les Dieux du Stade et le Triomphe de la Volonté comme vraiment des grands tours de force formels, en fait, sur cinématographique, qui font partie de ces œuvres qui ont permis de faire avancer une pensée formelle sur le cinéma, etc. Donc voilà, c'est...
On se rappelle quand même que l'Allemagne est, dans ces années 20 et 30, un pays de cinéma,
oui,
avec des Fritz Lang en particulier. Il y avait, alors lui, à un moment donné, il va partir, hein, parce qu'il n'est pas d'accord avec le régime nazi, mais c'est toute l'esthétique expressionniste, elle est en Allemagne, elle invente en Allemagne, et donc elle vit, elle est dans cette espèce de bulle comme ça, esthétique,
bien
culturelle,
sûr,
qui fait qu'elle complète d'une certaine façon la force du cinéma allemand à ce moment-là, qui, avec le cinéma américain, ils rivalisaient. Hein.
Ouais. Il y avait Marlène Dietrich,
mais pour rebondir,
qui elle est partie par contre.
Pour rebondir sur Fritz Lang, par exemple, c'est un peu rigolo, mais il y a un contexte assez intéressant, parce que Fritz Lang, lui, co-écrivait ses films avec sa femme, notamment pour Metropolis. Par contre, sa femme, elle, était une grosse partisane du régime nazi.
Enfin, elle s'appelait Theo von Arbou.
Oui, je crois que c'est ça, voilà. Et donc Metropolis, c'est assez fascinant, parce qu'il peut être vu complètement sur deux pans complètement différents, comme vraiment une œuvre qui serait un peu néo-fasciste, et au contraire, une œuvre qui serait au contraire plutôt très progressiste et antifasciste. Et donc voilà, c'était juste pour rebondir là-dessus, parce que je trouvais ton parallèle assez intéressant avec Fritz Lang, du coup, où en Allemagne, du coup, il y a une esthétique, en tout cas, qui se crée, qui rejoint un peu deux pôles à ce moment-là. Et donc, comme tu dis, où Goebbels et le Troisième Reich vont vraiment décider complètement de s'emparer de ça. Enfin, même quand ils vont occuper, la France, ils vont vraiment aussi prendre le contrôle sur certaines boîtes de production françaises. Ou par exemple, Georges Clouzot a travaillé pour une boîte de production qui avait été reprise par les personnes du Troisième Reich. Donc voilà, c'est aussi une époque où, comme je dis, le cinéma est extrêmement important. Et voilà, je ne sais pas si vous avez aussi d'autres choses à dire sur des éléments du film qui vous...
Non, je pense qu'on a fait un peu le tour. Alors c'est vrai, moi par contre, ce que j'ai découvert, je connaissais Leni Riefenstahl à partir de son travail dans Le Triomphe de la Volonté, etc. Mais j'ai été fasciné aussi par ses films d'avant. Les images qu'on envoie, ces films de montagne dont tu parles, c'est assez fascinant aussi, en fait. Hein. On découvre d'où elle vient et on comprend la suite aussi. Enfin, c'est vrai qu'il y a une lignée, voilà, c'est juste... Thank you.
Et pour rebondir sur le côté formel du film en question, là, le documentaire, et moi ce que j'aime bien, vous avez parlé de sa non-voix off, mais justement c'est ce que j'ai trouvé très intéressant dans le film, c'est qu'il n'est pas en train de nous prendre par la main pour savoir ce qu'on doit penser de Leni Riefenstahl. Il met vraiment tous les éléments à notre disposition, et c'est à nous un peu de nous en faire la conclusion, et donc c'est pour ça que je trouve ça très intéressant, et d'où le fait que, voilà, je ne l'avais pas dit en début d'émission, mais je dis, mais la séance... Il y aura une séance qui aura lieu le 13 février en présence du coup de l'historienne Charlotte Soria, et donc je trouve que c'est un film parfait justement pour ouvrir une discussion, parce que le film nous donnant pas toutes les réponses, il y a plein de choses sur lesquelles on a envie de discuter, sur les éléments qui nous sont montrés, sur les documents audiovisuels, cinématographiques, télévisuels qui nous sont montrés aussi, sur tout le parcours de Leni Riefenstahl. Enfin, il y a plein de sujets à discussion, et voilà, et donc du coup on pourra en parler, mais du coup j'aimerais que tu nous dises un peu quelques mots, Jean-Marie, sur
cette historienne voilà, Charlotte Soria. Avec les rendez-vous de l'histoire, et donc le centre de la résistance, de la déportation et de la mémoire de Blois, on a souhaité inviter et amener à cette discussion pendant la séance cinéphile. Hein. Eh bien, Charlotte Soria, en fait, c'est une très jeune historienne qui a soutenu une thèse il y a 2 ans sur la célébration des 1er mai à l'époque nazie, parce qu'ils ont récupéré d'une certaine façon, c'était la force par le travail, hein, la grande organisation de masse des nazis, qui impliquait évidemment d'entraîner tous les ouvriers aussi dans cette espèce d'unité du peuple allemand. Et Charlotte Soria a travaillé donc sur tous ces éléments, et notamment sur la propagande qui était développée à ce moment-là, sous l'impulsion de Goebbels. Elle a aussi travaillé sur les Jeux Olympiques. Donc elle pourra évidemment recontextualiser évidemment tout ce travail de propagande, comment il fonctionnait. Elle a été sous la direction pour sa thèse de Johann Chapoutot, qui est un grand historien reconnu et recommandé par Christian Ingrao. Donc je pense que ça sera tout à fait intéressant. En même temps, actuellement, elle est elle-même professeure d'histoire pour l'instant en lycée, avant d'avoir décroché le titre de maîtresse de conférence, parce que c'est toujours assez long quand on a fait sa thèse ensuite pour trouver un poste, mais elle pourra aussi témoigner de la manière dont elle utilise aussi ce film, parce qu'elle emmène ses élèves, elle m'a dit qu'elle venait d'emmener ses élèves voir le film, les faire travailler sur ce langage cinématographique de cette cinéaste Leni Riefenstahl, voilà.
Oui, bah, ça m'intéresse beaucoup. On en reparlera avec elle quand elle sera là, mais tu nous en avais parlé juste avant. Moi, ça m'intéresse beaucoup de comment la jeune génération peut percevoir cela. Surtout, je trouve, on a un peu parlé tout à l'heure, mais le film sort en plus dans un contexte, comme tu vous dites, en Allemagne, où il y a une remontée très forte des partis d'extrême droite soutenus par... des milliardaires étrangers qui n'arrangent pas.
Voilà. C'est le milliardaire qui dit que ne parlez plus de ce passé, oublions-le. Vous n'avez pas fauté parce que vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents étaient nazis. Voilà, la déculpabilisation à bon dos, puisque en fait, elle ouvre le chemin, elle pave le chemin de la remontée de cette idéologie d'exclusion, parce que c'est ça l'AFD, hein, c'est vraiment des pro-nazis. Hein. Stupéfiant.
Ils ont même repris.
Remigration, voilà. C'est-à-dire l'expulsion. Je veux dire, à l'époque, c'était les juifs. Là, aujourd'hui, c'est d'autres catégories de population qui sont montrées du doigt et ça pourrait déboucher sur le pire. Je suis tellement
C'est pour ça
ému ce qui se passe.
C'est pour ça qu'un film comme ça est intéressant, parce que, notamment sur notre relation à la propagande, en fait, moi qui m'intéresse, parce que. Je vais raconter une anecdote un peu, mais je me rappelle que moi, quand j'étais au lycée, on bossait sur la propagande, etc. Et à ce moment-là, on se disait, mais comment on a pu se faire... comment les Allemands, à l'époque où les populations civiles ont pu se laisser berner et faire avoir. Et je trouve que là, il y a un retour, il y a quelque part d'un contrôle de l'image et... pas que, parce qu'il y a l'arrivée de réseaux sociaux, etc., qui transforme encore.
Il y a des outils maintenant qui performent.
Hein. Exactement. Okay. Mais je trouve ça très intéressant qu'on revienne un peu sur comment aussi l'image de propagande était utilisée dans des périodes quand même qu'on accepte, dont on dit tous.
Le film montre aussi comment elle ment, le mensonge. Mmh. Et aujourd'hui, on est confronté à des discours qui sont mensongers et qu'on assène comme vérité, puisqu'il n'y a plus normalement de contrôle. Et voilà, tout le problème de la vérité et du mensonge, c'est la problématique d'aujourd'hui. Mmh, et donc, ce film est très intéressant parce qu'il essaye de montrer que on a une capacité de faire comprendre ce qui est le mensonge et ce qui est la vérité à travers des confrontations d'archives, des déclarations de certaines personnes. Voilà, donc je pense qu'on aura une discussion très intéressante à l'issue du film.
Oui, tout à fait. Oui, je pense que c'est pour ça que le film a été, comme lui, produit par une célèbre animatrice, une personnalité forte en Allemagne, parce que je pense que en Allemagne, je pense de réfléchir sur cette question-là devient de plus en plus urgent. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a certaines personnalités quand même allemandes qui montent un peu au créneau pour essayer de nous faire réfléchir là-dessus.
Voilà. Je précise que le film a été présenté au festival de Pessac, c'est un festival international du film d'histoire. Il a remporté le Grand Prix du documentaire. Donc là aussi, c'est notre cousin, on va dire, au rendez-vous de l'histoire, hein, ce festival de Pessac. Mmh. Et donc, il a été effectivement remarqué et, comment dire, honoré de ce grand prix.
Exactement, voilà. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur la soirée, sur le film, voilà.
On espère en tout cas que vous serez nombreux à venir cette séance cinéphile et on ne peut que remercier l'association de faire ce travail de découvreur de films intéressants, de films pertinents pour la réflexion civique.
Merci Jean-Marie.
Exactement.
Merci.
Merci. Voilà, je fais un rappel que du coup, le film Les Irréfléchissables, La Lumière et les Ombres sera donc diffusé pour sa première séance le jeudi 13 février à 20h30 au cinéma Les Lobbies. Et du coup, la séance sera suivie d'une discussion, d'un débat avec... avec l'historienne Charlotte Soria et donc en partenariat avec les Rendez-vous de l'Histoire.
Et Europe Ensemble.
Europe Ensemble, voilà.
Car c'est aussi une problématique européenne qui nous est confrontée aujourd'hui à travers ce film.
Et comment,
voilà. Et du Centre de la Résistance et de la Déportation de la Mémoire. Donc voilà, j'espère que vous serez tous là. Le film ensuite sera prolongé sur 5 séances supplémentaires plus tard. Donc si malheureusement vous ne pouvez pas être disponible le 13 février, il y aura encore des séances où vous pouvez découvrir le film. On espère à toutes et à tous de vous y voir nombreux. Je vous remercie beaucoup, Jean-Marie et Hervé, de m'avoir accompagné sur cette émission.
C'est nous qui te remercions.
Merci Nicolas.
Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et de très bons films. Au revoir.
Au revoir.